Bonjour tout le monde, bienvenue à The Humble Beginnings Show, le podcast où on jase actualité et actualité numérique. Avant, c'était un petit peu plus actualité numérique, mais désormais, j'ai ajouté le volet actualité qui va couvrir principalement la politique, l'économie et la géopolitique, qui sont trois sujets qui me passionnent. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, mon nom est Shirley Séguin. Dans la vie, je suis stratège digitale et donc je travaille au sein des agences depuis quelques temps. J'ai, à travers mon parcours, passé vraiment tous les stades. Donc, j'ai été autant pigiste, j'étais freelancer, j'étais solopreneur, j'étais intrapreneur, j'étais entrepreneur, bref. Mais tout ceci toujours dans le marketing digital et dans l'écriture. Bien entendu, l'écriture en 2021, bientôt 2022, c'est différent. Disons que ça a tendance à se simplifier, se raccourcir, à être plus sur le web. Voilà, et pourquoi je prends la peine de dire ce que je fais, qui je suis, c'est que le podcast est désormais disponible sur une nouvelle plateforme qui est vachement chouette, qui s'appelle Tumult. C'est une plateforme qui me semble, j'ai pas eu le temps de l'étudier à fond, je vais être bien honnête, mais c'est une plateforme qui me semble être plus française. Donc, je salue avec grande passion et grand respect mes cousins, cousines français, françaises. Vraiment, c'est un honneur et un plaisir de vous parler. Aujourd'hui, on a plusieurs sujets à voir, dont l'actualité géopolitique, actualité ici au Québec aussi, et actualité un petit peu numérique. La première chose dont je vais parler, le premier sujet, on va voir ensemble la fameuse pénurie de main-d'œuvre. Nous, on le voit dans notre secteur en marketing digital, même si, bon, tout le monde prétend vouloir devenir un digital nomade ou vouloir travailler en médias sociaux ou en marketing ou en e-commerce. Je vous le dis honnêtement, c'est vraiment pas facile actuellement le recrutement, mais ça se trouve à être un problème dans plusieurs secteurs. Et là, je veux attirer votre attention sur plusieurs choses. La pénurie de main-d'œuvre est un gros problème, notamment évidemment pour les employeurs, mais éventuellement pour les employés. OK? Donc là, je vais vous faire un petit peu un survol. J'ai discuté avec plusieurs personnes qui ne travaillent pas pour moi, là, ils ne sont pas attachés à moi du tout au niveau du travail, mais c'est des gens que je connais de près ou de loin, des abonnés, des gens avec qui j'ai échangé sur ce sujet. J'ai échangé avec des employeurs, j'ai échangé avec des employés. Et là, les employés sont, en fait, je ne dis pas les, là, je généralise pour le bien de la discussion, mais évidemment, ce n'est pas tout le monde qui pense comme ça, mais beaucoup d'employés m'ont dit, eh bien, on est content. On est content parce que maintenant, on a un levier. Donc, pour les employés qui pensent comme ça, si vous croyez que vous avez un levier, c'est vrai. Actuellement, le fait qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre, bien évidemment, fait en sorte que la plupart des entreprises vont essayer de faire un peu une campagne de séduction. Donc, vont soit ajouter des avantages sociaux ou vont plutôt penser sur des augmentations de salaire. Par contre, là, je vous le dis, OK? Par contre, c'est un grand, grand piège. C'est un piège que vous mettez à terre à vos propres pieds et que vous allez vous-même, vous allez vous-même vous jeter dedans. Et je vous explique. Donc, pour l'instant, vous avez raison. Donc, mettons, si présentement vous êtes un ou une employée et vous dites, bien, je peux me la couler douce un peu, j'ai de la PCRE. Et ça, pour nos amis français, PCRE, c'est en fait un espèce de petit revenu universel mensuel qui est donné aux gens qui ne travaillent pas, et ce, depuis le début de la pandémie. Par contre, j'ai vu récemment dans l'actualité que ce fameux, je crois c'est autour de 1 700 $ canadiens par mois que les gens reçoivent, eh bien, cette prestation prendra fin au mois de décembre 2021, donc on est d'ici 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Cette prestation ne va pas suivre avec 2022. Et donc, plusieurs choses ici. Premier segment, si vous êtes un employé et vous faites « Ah, ben moi, je vais jouer un petit peu, la game là, des échecs avec mon employeur » ou si vous n'êtes pas employé actuellement et que vous cherchez un emploi, eh bien, peut-être est-ce que vous flirtez avec plusieurs compagnies et vous attendez pour tirer la couverte un peu de votre côté. Donc, soit avoir plus cher au niveau du salaire ou avoir plus d'avantages sociaux. Et si vous êtes employé d'une boîte actuellement, et que vous mettez de la pression sur vos employeurs pour qu'ils augmentent votre salaire, et ce, même si ce n'est pas justifié, parce que soyons clairs, des augmentations de salaire, c'est bien. Je trouve que c'est normal, absolument normal. Cela dit, c'est un échange, hein? N'oubliez pas. Juste éclairer votre esprit. Si jamais vous êtes employé et vous n'avez jamais été soit un employeur ou vous n'avez jamais, disons, parti de compagnie, bref, vous êtes dans un statut d'employé et vous avez pas mal tout le temps été là-dedans. Je comprends votre vision. Par contre, on doit remettre dans le contexte, c'est quoi le travail, hein? Donc, vous donnez de votre expertise, de votre temps, et l'employeur donne de l'argent et rémunère en fonction de votre poste, de vos connaissances et de vos années d'expérience. Donc, c'est un échange. Tu me donnes de l'argent, je te donne mon temps et mon expertise. Donc, au niveau de l'augmentation de salaire, eh bien, bien évidemment, une augmentation de salaire doit se justifier. Donc, soit que, bon, ça suit l'inflation puis c'est annuel, donc ça récompense aussi votre loyauté, ou vous allez chercher un nouveau cours, vous avez une nouvelle expertise, bref, vous comprenez où je veux en venir. Mais là, si vous jouez un peu cette game d'échecs en ce moment, je vous le dis, ça semble être votre moment, mais c'est en fait un piège. Et ne tombez pas dedans. Si vous faites ça, vous allez peut-être réussir à aller chercher un petit peu plus, à aller tirer votre couverte. Fine. Par contre, au niveau de l'employeur, ce qui est difficile actuellement, c'est que avec l'inflation qui a vraiment pris de l'ampleur et qui va juste se poursuivre en 2022 et pour les années à venir, l'employeur, lui, par contre, de son côté, avec la pénurie de main-d'œuvre, il y a beaucoup de contrats qui ne peuvent pas être pris. Donc là, ça commence à être difficile. En tout cas, là, je parle pour le Québec. Je ne sais pas en France, je serais vraiment curieuse de vous entendre là-dessus. Mais bref, l'effet ici, c'est que les heures d'ouverture sont réduites dans plusieurs commerces. Évidemment, plusieurs commerces ont tout simplement fermé. Il y a beaucoup de contrats qui sont perdus parce que justement, les gens, soit qui niaisent ou soit qui sont comme justement la game de « paye-moi plus cher » ou où les gens essaient d'avoir un levier, mais ce levier-là fait que si vous attendez trop, si vous êtes trop gourmand, eh bien, parfois, les commerces vont juste fermer et il y a des contrats qui vont être perdus parce qu'il y a une question de timing aussi dans les contrats. Les effets de la pénurie de main-d'œuvre, disons, se font de plus en plus sentir, mais je vous le dis, le pire reste à venir parce que ici au Québec, donc on nous le dit dans un article du Journal de Montréal ce matin dans Actualité Société, le Québec s'apprête à connaître un creux historique de travailleurs disponibles en 2030, signale le ministre du Travail, qui prévient qu'il faudra travailler plus vieux. Ah ben oui. Donc, si vous avez profité de la PCRE pour ne pas travailler depuis le début de la pandémie, eh bien, j'ai une nouvelle pour vous, les mecs et les filles. Vous allez devoir travailler plus vieux de toute façon. Hein? On est une société et le travail, c'est pas seulement une game de qui fait plus, c'est qu'ensemble, comme société, nous devons bâtir des choses et nous devons produire pour être capables d'être compétitifs et sur le plan économique mondial. Le piège que je vous parlais tantôt, c'est que présentement, ça vous donne un petit levier, mais ce levier ne durera pas longtemps. Et je vous explique. Le problème avec ça, c'est que en n'allant pas travailler, en ayant pris la PCRE, en étant trop difficile avec vos employeurs actuels, si vous en avez, et si vous n'avez pas d'employeur actuel, mais que vous jouez un petit peu une game parce que il manque de main-d'œuvre, c'est moi qui ai le plus gros bout du bâton. Eh bien, j'ai une petite nouvelle pour vous. Les entreprises, qu'est-ce que vous pensez? Comment les entreprises vont parvenir à subsister si les gens refusent de travailler? Je vous laisse réfléchir un petit peu. Moi, personnellement, j'ai rapidement, quand j'ai vu ça, la dynamique qui se passait dans tous les secteurs au Québec, là, c'est l'enfer, eh bien, je me suis dit, les gens croient que ça les avantage, mais tout ce que ça va amener dans beaucoup de domaines, c'est l'automatisation, la robotisation. Hello tout le monde! Donc, vous croyez que vous avez un levier, mais vous allez être remplacé probablement d'ici très peu de temps, d'ici quelques années, parce que vous n'avez pas voulu travailler ou parce que vous avez... Là, évidemment, il y en a qui n'ont pas des mauvaises intentions. Mais bref, je parle pour ceux-là. Là. Ceux et celles-là qui ont joué un petit peu du coude en pensant, faire un bon coup, vous allez non seulement travailler plus vieux, mais les entreprises vont se robotiser et s'automatiser. Et ça, c'est une pensée que j'avais eue, une analyse. Et là, oups, qu'est-ce que je vois ce matin? Dans le Journal de Québec, on a ici, le titre est, dans l'article, « Pénurie de main-d'œuvre, robotisation et tâches à valeur ajoutée ». Ah, les mecs, on est dans la merde, quoi. Donc, je vous lis un petit peu un extrait de l'article. Chez Pièces d'Autotransit, on est loin d'avoir baissé les bras face à la pénurie de main-d'œuvre. Au contraire, l'entreprise attaque de front cet adversaire par différents moyens qui passent par la robotisation. On est sensibilisé depuis des années à la pénurie de main-d'œuvre. Pour nous, c'est du réchauffé. Donc là, ici, on parle d'une entreprise, l'entreprise Pièces d'Autotransit qui est à Lévis, au Québec. Donc, c'est sûr que eux, c'est un domaine particulier, mais bref, ils ont triplé la superficie de leur centre de distribution qui totalise maintenant 150 000 pieds carrés pour ajouter des robots. Ah ben oui. Avec son conjoint Stéphane Gay, qui est président, Mlle Labrie pilote un vaste projet de robotisation qui a amené l'entreprise à réaliser un investissement de 22 millions afin de se tourner vers l'avenir. Donc, Mademoiselle Labrie, qui est la propriétaire, a dit dans l'article, « En avril 2020, on a donné le go à notre projet. On a dit, on continue le projet et on creuse. On est très content aujourd'hui d'avoir pris cette décision qui était très risquée. Il faut se l'avouer. Si on avait mis le projet sur la glace, nous aurions été confrontés à des délais et à des coûts supplémentaires. Ça aurait eu un impact majeur. Nous n'aurions pas été capables d'atteindre nos résultats. » Ah, ben voilà, hein? On a des idées de recrutement pour que les gens fassent la file pour venir travailler ici. C'est ça notre objectif. Donc, heureusement, dans l'article, Mlle Labrie nous dit bon, on essaie quand même, blablabla, d'avoir des REER collectifs, des choses comme ça pour attirer les employés. Par contre, pour être bien honnête, je vous dirais que ça, c'est juste un petit exemple. Mais dites-vous que dans beaucoup, beaucoup de domaines, cette attitude-là, ce manque de main-d'œuvre-là, va seulement faire en sorte que les entreprises vont s'automatiser. Alors, sur ce, je vous dirais, les gars, les filles, retournez au travail, ça presse. Ça presse. De toute façon, la PCRE se termine au mois de décembre. Let's go, on commence 2022, s'il vous plaît, en travaillant. Hein? Parce que de toute façon, peut-être que vous avez réussi à avoir quelques petits avantages ici et là en profitant de la situation sanitaire, mais vous allez travailler plus vieux. Dans un système capitaliste, rien ne se perd, rien ne se crée, OK? Donc, on va être obligé de vivre avec ça. Deuxième sujet du jour, qui est un sujet assez touché, mais que je veux quand même discuter. Si vous avez remarqué, un peu dans les médias partout, bon, on entend parler de culture woke, on entend ces choses-là. Disons que je vais le prendre encore plus grand, c'est-à-dire... nous sommes dans une ère qui est fort inquiétante de plusieurs façons, notamment de nos jours. En fait, c'est les effets du postmodernisme, mais là, nous sommes en plein dans la phase 3 du postmodernisme, où le narratif, l'histoire personnelle d'une personne prévaut sur la vérité observable et sur les faits. Bref, le rationnel a pris le bord, les amis. Hein? Heureusement, il en reste encore dans certains domaines. Les sciences, et là, je ne parle pas des sciences sociales qui sont un peu plus infectées, les sciences pures, les affaires et les mathématiques, bon, évidemment, et la philosophie, encore là, restent un peu dans le rationnel, est encore vu comme quelque chose de bien. Mais dans le reste, honnêtement, écoutez tout le monde, nous sommes vraiment dans une ère où les sensibilités de chacun sont la vérité. Ça va pas, les gars. Ça va pas. Parce que, je donne un exemple, généralement, la vraie vérité, si vous êtes capable de vous observer vous-même, la vraie vérité, lorsque nous sommes confrontés à l'opinion de quelqu'un ou quelque chose qui nous dérange intérieurement, qui vient nous chercher, qui vient nous blesser, entre parenthèses, eh bien, généralement, c'est carrément une réponse de nos propres traumas internes, des propres choses que nous n'avons pas réglées. C'est pas parce que quelqu'un a une opinion différente sur un sujet chaud qu'il faut diaboliser cette personne. Donc, puisque nous sommes dans l'émotionnel, l'émotivisme, le rationnel, en fait, et j'ai même lu que le rationnel est une chose de blanc, les mathématiques, le rationnel est quelque chose, quelque chose inventé par les blancs. Écoutez, je ne comprends, honnêtement, je ne comprends cette phrase-là, si vous la dites, je ne la comprends pas. En fait, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de penseurs grecs, la philosophie est la mère des sciences, et la philosophie, du moins, veut le plus possible chercher une vision objective de la vie. Mais le problème, les amis, c'est que sous le couvert d'aimer tout le monde et qu'on va tous vivre main dans la main, comme dans un film pour enfants avec les nuages en biscuit, je vous dirais que ça n'arrivera pas. Et si vous voulez que ça arrive le plus possible, eh bien, la solution, c'est de régler vos traumas, arrêter d'être trigger par tout et essayer de prendre une distance sur vos émotions. C'est la meilleure manière de trouver la paix. C'est ce que vous voulez. En fait, j'entends beaucoup de gens plus de gauche prétendre à vouloir, tu sais, une paix là, mondiale et tout. La paix, ah, bien sûr, j'achète. Sauf que saviez-vous, la gang, que le rationnel est essayer d'être objectif et de sortir de son nombril, de ses émotions et de pleurnicher, ça peut amener à ça. Je vous le jure, essayez. Essayez d'être objectif et de ne pas sauter, sortir de vos gonds aussitôt que quelqu'un pense différemment de vous. Parce que sérieusement, l'Occident s'en va à la ramasse. L'Occident est à la ramasse pour beaucoup de raisons, mais notamment le narratif personnel, et je dis bien narratif, prévaut sur le rationnel et l'objectivité. Oh, oh, oh! Il y a beaucoup de penseurs, de philosophes grecs et de penseurs des Lumières qui honnêtement, ne comprendraient vraiment pas que après tant de siècles de penseurs, nous sommes revenus au point zéro. Nous sommes revenus dans le tribalisme, dans l'émotivisme. Sérieusement, je ne peux pas le croire. Mais bref, faites l'exercice. Si quelqu'un a une opinion différente de vous sur la politique, la géopolitique, l'économie, quelque chose que je sais pas moi, bon, qui vous tient à cœur, il pense pas comme vous, plutôt que de dire « Eh, espèce de facho » ou « espèce de whatever », pouvez-vous essayer de vous comprendre les deux? C'est bon pour les deux, hein? Donc, que vous soyez de gauche, de droite, que vous soyez sensible, pas sensible, I don't care. Mais on sent, les émotions ne sont pas des vérités et encore moins des faits. Je ne dis pas qu'il faut invalider vos émotions, mais vos émotions vous appartiennent. À un moment donné, là, je crois qu'on est dû pour un bon gros travail d'introspection. Parce que on n'arrivera jamais à rien. En fait, ce qui me fait rire, c'est qu'il y a un grand discours médiatique, surtout dans les pays occidentaux, bien entendu. Ailleurs, c'est complètement autre chose. Mais le discours, on veut vivre dans un monde de calinours, on veut tous être par la main et faire une grande chaîne humaine autour de la planète Terre, comme dans les dessins animés qu'on a vus quand on avait 6 ans. Je comprends. Par contre, pour y arriver, je crois sincèrement qu'être trigger et d'être l'émotiviste ne mène à rien, si ce n'est qu'à son propre petit nombril. Voilà. On va changer de sujet, on va aller en France. En France, c'est quelque chose qui s'est passé récemment. Un humoriste je vais vous le nommer précisément, l'humoriste Yacine Bellatar a enfermé deux journalistes d'un média qui s'appelle Livre Noir. Et la saga. D'un côté, on a Yacine Bellatar qui dit qu'il a été piégé, que ses spectateurs ont été piégés par deux journalistes. Puisque ces deux journalistes, en fait, je vous relate l'histoire, deux journalistes sont allés, avant le spectacle de l'humoriste Yacine Bellatar, ils sont allés sonder les gens qui allaient assister au spectacle. Donc, selon les dires, là, évidemment, je ne fais que vous dire les dires de chaque côté et vous ferez votre propre opinion. Selon les dires du journaliste Jordan Florentin, est-ce que c'est vraiment son nom? Je vais vous dire plus précisément, là, je le dis de mémoire, on dirait que j'ai peur. C'est ça. Donc, ce journaliste et un de ses acolytes sont allés, ils font un documentaire, en fait, selon les dires, évidemment, de ce jeune homme. Donc, ils font généralement des documentaires sur différents artistes, à savoir, est-ce que cet artiste, c'est vraiment un artiste ou est-il un homme politique? Parce qu'on s'entend que, bon, il y a beaucoup d'artistes qui véhiculent des messages politiques, soyons clairs. Donc, ils ne sont pas seulement que des artistes. Hein. Donc, voilà. Et donc, c'était dans le cadre, Jordan Florentin, c'était dans le cadre, ce que Jordan Florentin dit, d'un documentaire. Et là, de l'autre côté, nous avons le Yacine Bellatar, l'humoriste, qui lui dit que les deux humoristes se sont fait passer, les deux journalistes se sont fait passer pour d'autres journalistes de d'autres médias qu'ils ont filmé sans avoir la permission leurs spectateurs, si on veut, et qu'ils essayaient donc par le fait même de faire passer, en fait, de le faire passer pour un islamo-gauchiste, et bref, qu'ils auraient piégé les spectateurs. Et de l'autre côté, nous avons M. Florentin qui a dit, ben on fait ce genre de documentaire-là régulièrement. Et le problème, c'est qu'ils ont assisté au spectacle. Jordan Florentin l'a dit qu'ils n'ont pas filmé illégalement le spectacle. Donc, ils ont seulement filmé avant les spectateurs pour leur demander des questions qui ressemblent à ceci, comme « Que vous inspire-t-il? Est-ce un homme politique ou un humoriste selon vous? Que pensez-vous de l'ambiance en France? » etc. Parce qu'on s'entend qu'en France, l'ambiance est absolument dégueulasse. Je vous le dis, chers amis français, c'est vraiment... En fait, c'est très peu sécuritaire actuellement. Et c'est vraiment à la ramasse. La France est à la ramasse et dans le chaos. Bref. Alors, d'un autre côté, Jordan Florentin de Livre Noir nous dit qu'à la fin du spectacle, l'humoriste ne l'avait pas reconnu, mais quelqu'un a dit à l'humoriste, « Hey, by the way, ce gars-là, c'est Jordan. Il travaille pour tel média. » Et Livre Noir est un média en France chez les gauchistes. C'est perçu comme un média d'extrême droite. Bon, ça, si vous me permettez, je trouve que l'expression extrême droite est vraiment galvaudée et utilisée à toutes les sauces. Parfois, c'est vrai, parfois, c'est vraiment pas ça. J'aimerais vraiment que les mots soient mieux utilisés, mais bref. Donc, quelqu'un lui a dit, et à ce moment-là, l'humoriste a décidé d'enfermer et donc d'empêcher les deux journalistes de sortir du théâtre. Donc, séquestration. Ils l'ont forcé aussi à vider, de lui donner la carte SIM de son téléphone. Bref, ça a vraiment été un échange là, très, très violent entre les deux. Et c'est ça, Bellatar a demandé à son garde du corps, son vigile, de baisser les grilles du théâtre et de verrouiller les portes. Pour empêcher ces deux journalistes-là de sortir. Et il était accompagné de son équipe et évidemment d'une dizaine de membres du public qui étaient restés. Et en fait, ils ont seulement insulté, lynché, menacé de grosses menaces quand même. Là. Je ne sais pas si c'est vrai, là, je suis pas en France, mais bref, je relate juste les faits, ce que j'ai lu. Et donc, Bellatar a hurlé à Jordan, « C'est toi, Jordan! » T'es le putain de fils de pute qui a piégé les mecs d'Aulnay. T'es un putain de suicidaire. T'es recherché par tout le 93. Tout Aulnay cherche ton prénom. T'es la prochaine Mila. Donc, du côté de Yacine Bellatar, lui, il dit qu'il a été piégé par les journalistes parce qu'ils ont fait semblant d'être autre chose, en piégeant par le fait même ses spectateurs, en leur posant des questions, disons, orientées avant le spectacle. Et de l'autre côté, les deux journalistes disent la même chose. Donc, il les a, en fait, disent la même chose. Eux accusent Bellatar de les avoir séquestrés et menacés. Pourquoi j'en parle? C'est que, honnêtement, je vous jure, là, tout ce qui se passe en France, je suis ça de près, puis je trouve sincèrement que la France est déchirée, mais comme jamais. La France est vraiment déchirée, et je vous dirais que tout ceci devait être latent. Mais depuis la candidature d'Éric Zemmour, je pense pas qu'il a encore, il n'a pas encore déposé sa candidature officielle pour la présidentielle. Mais bref, il y a vraiment un vent avec Éric Zemmour en France qui amène les différences entre certains, entre les Français et certains Français qui sont d'origine purement française et les gens qui sont issus de l'immigration. Il y a vraiment une espèce de fossé entre les deux. Et honnêtement, je vous souhaite sincèrement que ça se règle parce que la France commence à être un endroit très, très peu sécuritaire. Ça fait déjà plusieurs années, hein, Moi, j'ai beaucoup d'amis qui habitent là-bas, mais aussi également, je lis beaucoup là-dessus. Puis bon, il y a des quartiers chauds hein, en France. Il y a des quartiers que vous pouvez être une femme, par exemple, et vous promener en vous habillant en femme française occidentale, puisque c'est des quartiers qui ont été pris par des communautés musulmanes. Et donc, il y a des quartiers chauds où, c'est ça, les femmes ne peuvent pas se promener vraiment, se promener en femme occidentale dans un pays occidental. Donc, ça, c'est des petites choses. Il y a vraiment des petits feux, mais là, ça commence. Moi, je trouve que les petits feux commencent à se rejoindre en immenses feux de forêt. Et bien honnêtement, je ne sais pas ce sera quoi l'issue de tout ceci, mais chers Français, ça doit être vraiment difficile, autant d'un côté que de l'autre, de vivre en France. Honnêtement, je ne sais pas comment la France va se... Je sais pas comment la France va se relever de ça, bien honnêtement. Je vais continuer pour le dernier segment, actualité numérique, pour vous mettre au parfum. Facebook a désormais un nouveau feature, donc une nouvelle chose que vous pouvez faire si vous avez un e-commerce ou si vous vendez des choses. Désormais, Facebook permet d'acheter à l'intérieur de groupes Facebook. Et là, je vous explique, par exemple, on va se le dire. Si, par exemple, moi, je suis votre ami et je vous recommande telle crème de jour, vous êtes plus encline à acheter cette crème si je suis votre ami, je vous le recommande, plutôt qu'une pub qui va être seulement robotisée, on pourrait dire automatisée, qui va pop dans votre écran. Donc, c'est le même principe que Facebook essaie. Donc, plusieurs experts se sont penchés sur le sujet. On va pouvoir le tester plus dans le temps. Mais bref, pour l'instant, on a de bons espoirs que la conversion va être beaucoup plus élevée. Bref, moi, si j'étais une compagnie, j'avais un e-commerce, j'intégrerais des groupes et je créerais moi-même un groupe aussi. Puis je vous le dis, moi, dans le fond, ça fait déjà plusieurs années que je teste. J'ai eu la chance de tester avec plusieurs clients les groupes Facebook. Si vous réussissez à bien monter vos groupes et à pas être seulement en vente, hein, parce que ça, les groupes Facebook, évidemment, même si on a la fonctionnalité maintenant disponible, si vous faites que de la vente dans les groupes, les gens vont juste se désinscrire. Donc, on fait le plus possible du contenu organique, mais vous pouvez insérer votre boutique en ligne. Et je crois que c'est une très bonne nouvelle. Commencez immédiatement. Commencez à regarder ça. Aussi, une autre chose. Si vous avez de la difficulté à recueillir des adresses courriel pour vos infolettres ou pour whatever, ou vous ne savez pas quel cadeau offrir à vos abonnés, eh bien, il y a un site qui s'appelle Magazine Gold, donc comme le magazine or, si vous voulez, si je le traduis en français. Magazine Gold permet en fait de donner gratuitement à vos abonnés un abonnement à des magazines en ligne, sans frais supplémentaires pour vos abonnés. Fait que par exemple, si vous vendez des crèmes puis vous voulez si vous vous abonnez à la newsletter, laissez votre email et vous pourrez avoir automatiquement un abonnement à X magazine. Évidemment, allez sur le site Magazine Gold, allez les choisir en fonction évidemment de votre niche et des intérêts de votre public cible. Et je termine en rafale, pub de Noël. Le Noël s'en vient. Sachez que depuis, en fait, début novembre, les pubs que vous avez mis sur Facebook, Instagram et un petit peu partout, particulièrement sur Facebook, Instagram, vont vous coûter de plus en plus cher parce qu'évidemment, plus on se rapproche de Noël, plus, en fait, il y a de compagnies qui vont embarquer dans l'enchère et donc votre coût d'acquisition par client risque d'être plus élevé. Donc, prenez ça en considération parce que ça va aller gruger dans vos profits et donc, trouvez une manière de le contourner ou faites vraiment beaucoup d'assauts de contenu organique, puis ça va venir soutenir vos pubs de Noël et peut-être que vous pourrez travailler avec le même budget malgré les coûts d'acquisition qui peuvent être plus élevés. Ça peut vous faire une balance en tant que telle et que vous ne serez pas obligé d'augmenter considérablement vos budgets de pubs de Noël. Donc voilà, on a couvert beaucoup de choses aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, puis on se retrouve dans un prochain épisode. Merci.